Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On a quelques petits trucs dont on va vous parler aujourd'hui. Il n'y a pas d'énormes news, mais on s'est dit qu'on allait quand même faire un petit épisode rapide. Je suis Patrick Béja et pour m'accompagner dans cette collection de news, j'ai Loïc Rallet, alias Epion de jeuxvideo.com. Comment ça va, monsieur ?
Bonjour. Bah écoute, ça va très bien. Petit début d'année tranquillou, là. C'est le genre de moment qu'on apprécie dans la presse jeux vidéo, on peut se reposer un petit peu.
Ouais, ouais, en même temps, j'ai vu que tu étais particulièrement fan de Dragon Ball FighterZ, il y a aussi Monster Hunter, ouais. Enfin, c'est pas de tout repos non plus comme
c'est pas de tout repos non plus, mais disons que c'est plus calme que forcément c'est les derniers mois de l'année, septembre, octobre, novembre, où là où tu bombardes à 400 à l'heure pendant 4 mois d'affilée, là c'est quand même plus posé, tu vois, parce que depuis Dragon Ball, j'ai fait quelques tests, mais bon, c'est un rythme qui est quand même beaucoup plus acceptable.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, tout le monde est tranquillou, on passe l'après-midi à prendre des cafés à la cafette, tout ça, c'est...
Ah,
c'est
j'irai pas jusque-là, non, parce que... disons qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, mais ouais, le rythme est moins soutenu, t'as le temps de bosser sur des trucs un peu plus relaxé, quoi. Ouais. Toi, il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé un développeur indé son projet, sur la création de son studio, sur ses jeux, tu vois, c'est le genre de truc que clairement en octobre, novembre, t'as pas le temps de faire, quoi.
Donc peut-être qu'on peut se consacrer un petit peu plus à des projets personnels, enfin plus personnels, plus...
Comment dire ? Tout à fait, ouais.
Ouais. Ah ouais. D'ailleurs, je dis, ça va pas vraiment durer très longtemps parce que déjà, tu te rends compte que l'E3, c'est dans 3 mois à peine. Enfin bon, un peu ouais, plus, ouais, 3 mois et demi. C'est... Oui, ça arrive déjà.
Non, on est déjà en train d'en parler, ouais.
Ouais, c'est ça. Il faut commencer à planifier les billets pour ceux qui y vont, prendre les rendez-vous bientôt. Là, ça commence à arriver les demandes de
c'est
rendez-vous.
Ça.
Donc,
c'est ça.
Ouais, ouais. Bon, si ça va être excitant encore cette année, je pense. Et bah tiens, puisque c'est un épisode un petit peu plus tranquillou, quelles étaient tes impressions sur Dragon Ball FighterZ? Je sais que t'as beaucoup aimé, mais puisque tu y as énormément joué, quelques mots dessus.
Oh, c'est un des jeux assez... effectivement, je suis un gros fan de Dragon Ball, donc forcément, ça influe sur mon jugement. Mais au-delà du côté Dragon Ball, je trouve que c'est un excellent jeu de baston et je suis pas loin de penser. Et d'ailleurs, je suis assez content de voir que je suis pas le seul à le penser et à le dire. C'est un des meilleurs jeux de baston qui soit sorti ces 10 dernières années, quoi. Je sais plus qu'il y a une revue américaine ou site américain, peu importe, a sorti cet article, je crois que c'était hier ou avant-hier, qui disait que c'était le nouveau Street Fighter 2 de cette génération. Alors, je sais pas si ça aura le même impact, etc.
Ouais.
Mais il y a quelque chose de fou avec ce jeu dans le sens où le gameplay est hyper maîtrisé, ça plaît énormément aux gros fans de jeux de baston, tout en conservant un côté très attractif et fun pour les joueurs débutants. Et tu vois, il y a une semaine, j'ai mes deux petites sœurs qui étaient de passage sur Paris, que j'ai reçu chez moi. On s'est fait une bouffe, machin, blabla. Et puis après, on a lancé la console. Et tu vois, je pensais qu'on allait jouer à quelques party game et compagnie. Et en fait, non, pas du tout. On a fini sur Dragon Fighters. On y a joué toute la soirée, quoi. Alors, elles jouent un petit peu de temps en temps des jeux de combat et elles sont pas des professionnelles, mais elles. Et bon, je les ai défoncées, hein, très honnêtement, parce que j'ai aucune
bien sûr, sans
même
pitié. Faut qu'elles apprennent, c'est comme ça qu'elles apprennent.
Mais voilà, exactement. Là, on apprend les choses à la dure. Mm-hmm. Mais elles ont adoré parce que le gameplay, le plaisir de jouer est instantané, quoi. Non, le Dragon Ball FighterZ est absolument. Puis en plus de ça, enfin, je veux dire, au-delà du fait que ça soit fun à jouer et que ça soit un bon jeu de baston, et le truc il est hyper beau, ne serait-ce qu'à regarder, j'ai regardé mes deux sœurs jouer, j'ai pris un pied monstre parce que pas parce que c'était du beau jeu, mais parce que quand t'es fan de Dragon Ball, voir les personnages, la modélisation, la façon dont c'est, les, tu sais, les angles de caméra, le dynamisme, enfin, c'est, bon, le jeu est fou, le jeu est fou.
D'accord, bah, écoute, moi, je l'aime bien, je partage pas à ce point ton enthousiasme, peut-être que j'ai pas trouvé toute la technicité du jeu, et je doute que ça soit quand même le Street Fighter 2 de cette génération, faut pas exagérer non plus.
C'est les Américains, tu vois, ils sont toujours dans l'exagération.
C'est ça, ouais. Mais effectivement, bon, bah, écoute, ça fait plaisir de voir, enfin, un jeu Dragon Ball qui est à sa digne place dans le panthéon des jeux de combat. Moi, je voulais redire quelques mots sur un autre jeu dont j'ai parlé la dernière fois. C'est Céleste, que j'ai évoqué et dont j'ai dit beaucoup de bien. Et en fait, j'aimerais prendre le temps d'en redire encore plus de bien, parce que c'est vraiment un jeu qui m'a absolument conquis. Et je crois qu'on va se retrouver, du coup, on va interchanger nos places, parce que j'ai l'impression que toi, il t'a pas autant plu que ce qu'on entend un petit peu partout sur Internet, mais j'ai réussi donc à le finir, et tout ce que je disais la dernière fois est encore vrai, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est vraiment dans cette catégorie de jeu die and retry hyper dur, qui est exceptionnel parce que il est tellement bienveillant et encourageant qu'il permet aux gens qui n'ont jamais eu accès ou qui n'ont jamais voulu s'investir dans ce type de jeu, justement, de s'y investir, et il procure une satisfaction que ressentent, je suis certain, tous les fans de ce genre de jeu depuis longtemps, mais il permet de rendre accessible ce type de satisfaction et ce genre de plaisir vidéoludique à un public tout nouveau. Et en plus de ça, je trouve vraiment que la narration, qui est vraiment présente et importante dans le jeu, même si elle prend pas beaucoup de place au niveau du temps qu'elle représente dans votre partie, dans l'expérience, elle prend une place importante, et c'est le genre de jeu qui mêle la narration et le gameplay, qui synchronise les deux, et qui du coup crée une expérience vidéoludique complètement unique, en ce sens qu'elle ne pourrait pas être répliquée dans un autre type de média, parce qu'on mélange complètement la sensation qu'on a, nous, en jouant au jeu, et le challenge, les efforts que fait Madeline, le personnage du jeu, en essayant de conquérir cette montagne qui est en même temps un symbole de des challenges qu'elle a, elle, personnellement, psychologiquement, dans sa vie. Et c'est fait avec des petites touches assez sobres et très naturel, et dans l'ensemble, donc, ça crée une expérience qui est vraiment mémorable. J'ai eu énormément de mal à arriver au bout, je pense comme tout le monde, mais c'est même pas tant genre ah mon Dieu, ça y est, j'ai réussi, j'y suis arrivé, genre l'exultation d'avoir réussi, mais on se retourne et on regarde tout le parcours qu'on a fait, et il y a un réel plaisir assez unique là-dedans. Donc je suis complètement conquis par le jeu maintenant que j'ai fini la première partie. Après je l'ai fini, après on peut faire des trucs supplémentaires, phase B, collectionner toutes les strawberries, toutes les fraises, etc. Il y a plein de trucs, genre il y a 3-4 niveaux différents, phase B, phase C, les fraises, les cœurs, les machins, il y a 1000 choses cachées dans le jeu. Et pour moi, vraiment, j'en suis à un point où il y a peu de doute qu'il figurera sur ma liste de jeux de l'année. Enfin, il sera certainement sur ma liste de jeux de l'année, mais il faudrait que l'année soit aussi bonne, voire meilleure que 2017, pour qu'il descende en dessous de mon top 3, top 5, quoi. C'est à mon sens un jeu qui va me rester comme une expérience assez mémorable. Donc, je voulais en dire encore un mot et le re-recommander à tous les auditeurs, parce que c'est un truc vraiment assez unique, quoi. Et toi, donc, tu disais que t'es pas méga fan?
Alors, c'est pas que je suis pas méga fan, parce que tu vois, je reconnais très largement que c'est un excellent jeu, tu vois, en termes de game design, et fait surtout de choses. Je trouve surtout que c'est le level design qui est le plus intéressant dans le jeu. Il y a une espèce de science de maîtrise qui est assez folle, ouais. Mais après, dans ce que propose le jeu, je sais pas, je me suis pas. J'ai passé un bon moment, mais tu vois, je vois Twitter, et je suis beaucoup d'autres journalistes et de gamers, machin, etc. Et je vois les gens qui exultent, qui se roulent par terre, le GOTY, machin, etc. Et ouais, enfin, je sais pas, j'ai passé un bon moment, mais après, je sais pas, j'ai pas non plus applaudi en finissant le jeu, j'ai pas applaudi devant tant de génies, machin. Non, ça a moins pris. Après, il y a un
peut-être
truc,
que la narration t'a moins parlé aussi, t'as moins été pris dans ce.
Peut-être, ouais. Après, c'est vrai qu'en général, dans ce genre de jeu, c'est plus là, toi, le côté performance, tu sais, de passer les niveaux, machin, qui m'intéresse plus que la narration. Mais Après, je sais pas, moi j'aime beaucoup, tu vois, les plateformeurs un petit peu vénères comme ça, et ce que j'aime le plus dans ce genre de jeu, tu sais, c'est la sensation de flow, où tu t'arrêtes jamais, tu traverses les écrans, tu passes, toi, tu passes les difficultés, tous les petits pièges, toutes les petites épreuves, tu sais, tu traverses d'un point A à un point B sans t'arrêter, boum, c'est hyper fluide, c'est hyper agréable. Toi, t'as une espèce d'adrénaline qui, plus tu avances, finit par monter. Alors que Céleste, avec son système, tu sais, d'accroche sur les plateformes flottantes, là, forcément, tu vas défiler à un certain rythme, machin, mais t'es obligé, tu sais, de t'arrêter, de marquer des pauses, et plutôt qu'avoir une espèce de truc constante, un espèce de rythme qui fait tac, tac, tac.
Je vois
tac.
Ce que tu veux dire,
ça, ouais. C'est un truc qui me frustre un petit peu. Tu sais, c'est absolument pas comparable, mais c'est comme c'est lorsque tu jouais sur les premiers Sonic, sur Mega Drive, où t'arrives, d'où tu commences à jouer avec Sonic, tu te vois, ouais, génial, le personnage, il est hyper rapide. Et au bout d'un moment, on t'arrive à passer les épreuves les plus compliquées, tu passes les sauts, les machins, t'enchaînes les ennemis. Enfin, t'as cette sensation de fluidité qui est très agréable. Et puis subitement, tu tombes sur un espèce de niveau platformer sur lequel il faut absolument pas louper les sauts et dans lequel tu perds cette sensation de, tu sais, de plaisir, de vitesse et de difficulté un petit peu que t'as sur les premiers niveaux du jeu. Et ouais, j'ai un peu eu ce genre de frustration en fait sur Céleste. Après, c'est pas gravissime, c'est moi, bon, la formule m'a pas
t'as
plu,
moins après accroché, je oui, c'est ça.
C'est, ouais. Après, c'est, toi, tu me proposerais, là, je sais pas, à côté, un Super Meat Boy, tu vois, typiquement, ouais, je prendrais plus Super Meat Boy, même si dans Super Meat Boy, t'as aussi des moments où tu vas t'arrêter, t'attends un petit peu. Mais toi, typiquement, il y a, c'est pas un platformer vénère, mais toi, un Ori and the Blind Forest, à l'époque, sur les derniers niveaux, à la fin, parce que bon, c'est plus un Metroidvania, en fait, qu'un espèce de platformer, de performance comme CS. Mais sur les derniers niveaux de Ori, tu dois vraiment enchaîner des passages hyper compliqués à passer d'ennemi en ennemi, à faire des sauts, des machins dans tous les sens. Et tu passes ton temps à bondir et tu ne t'arrêtes jamais parce que, bah, la plupart du temps, en fait, si tu arrêtes, tu tombes et tu meurs, tout simplement. Et ça, c'est le genre de sensation que j'aime, en fait, retrouver dans ce genre de jeu que j'ai pas forcément eu dans Céleste. Mais bon, c'est pas grave, hein.
Non, bah oui, bien sûr, et c'est évidemment, effectivement, c'est ce qu'on dit souvent, tous les jeux ne peuvent pas plaire à tout le monde. Mais bon, c'est sûr que la majorité semble être, ou le consensus semble plus être du côté du, oui, c'est pas qu'on crie au génie, mais une appréciation qui est un petit peu chaleureuse et enthousiaste, on va dire, sur Céleste en général, quoi.
Non, mais très très objectivement, le jeu est très bon. Après, c'est juste que moi, subjectivement,
c'est pas à toi ça te parle pas.
Ça me parle moins, quoi. Ouais.
Bah moi je vais peut-être du coup aller essayer Super Meat Boy qui m'a toujours intimidé et je me dis bon peut-être on va voir si maintenant que j'ai été éduqué à l'école Céleste ça va peut-être me parler un petit peu plus. Je pense toujours pas
que les règles du jeu sont pas les mêmes, mais j'aurais tendance à penser maintenant que peut-être Super Meat Boy est plus facile que Céleste, je sais pas.
Ah oui, d'accord. Bon bah écoute, à voir alors, effectivement. Bon.
Céleste, c'est presque un puzzle game, tu vois, par moment, dans la façon dont tu dois envisager ta traversée des différents niveaux, etc. Enfin,
c'est vrai, oui.
T'as un côté réflexion que t'as pas forcément dans Super Meat Boy, je sais pas.
D'accord. Bon, écoute, en tout cas, voilà pour Céleste et Dragon Ball Fighters, dont on voulait vous dire quelques mots encore une fois aujourd'hui. J'espère que ça vous motivera à les essayer. Et si vous avez des expériences comment dire positives avec Céleste, parce que je vous ai encouragé à le faire, n'hésitez pas à venir me le dire sur Twitter ou Facebook ou ce que c'est. Je serais heureux que vous me témoigniez de cette expérience qu'on a partagée ensemble, tous les deux, juste nous deux, voilà, comme ça. On va parler un petit peu d'autres jeux, de Metal Gear Survive, de Assassin's Creed, de Bayonetta, de quelques autres trucs. Mais avant ça, je voudrais mentionner les premières conséquences en fait de la controverse des loot box dont tout le monde se souvient de l'année dernière. On a en fait deux éléments nouveaux qui sont venus agrémenter la conversation. D'une part, le fameux sénateur, je crois qu'il s'appelle Lee, à Hawaï, Monsieur Lee, il a introduit je sais pas comment ça s'appelle, une bill, enfin une loi, un projet de loi peut-être.
Une proposition de loi, ouais.
Voilà, c'est ça, un projet de loi, une proposition de loi. Qui viserait à implémenter finalement les à peu près ce dont on parlait nous dans l'émission. Je sais qu'il y a des gens qui demandaient, qui exigeaient ou qui espéraient bannir complètement les loot box, et je crois que la plupart des gens raisonnables comprenaient que c'était pas vraiment raisonnable justement comme demande. ce qu'il propose dans ce projet de loi qui ne concernerait que l'État d'Hawaï, hein, c'est pas entièrement dans les dans l'intégralité des États-Unis. Donc ça serait, comme je le disais, ce qu'on évoquait, c'est-à-dire une interdiction en dessous d'un certain âge. Eux, ils évoquent 21 ans, un affichage clair du fait qu'il y a des loot box et des pourcentages de chances d'obtenir les différents objets qui sont possibles d'obtenir dans les loot box. Donc c'est un petit peu la frange dure de ce combat. Lui, il s'est exprimé à plusieurs reprises sur le fait qu'il était vraiment contre l'implémentation des loot box dans les jeux, toujours avec ce terme de, ils utilisent le terme de predatory practices, des pratiques que moi j'aime pas vraiment, parce que le terme prédateur, c'est un peu, ça implique des choses, et l'idée que ça soit comparable au jeu d'argent, c'est quelque chose qui, à mon avis, pousse la, enfin bon, j'en ai suffisamment parlé dans les émissions précédentes. Donc ça, c'est en train d'arriver du côté de Hawaï. Il y a aussi des discussions avec des sénateurs dans les États-Unis en général, mais il n'y a pas de concrétisation dans les lois. D'un autre côté, il y a l'ISRB, qui est l'organisme de régulation de l'industrie, qui est une sorte d'organisme.
C'est l'équivalent du PEGI. Hein,
voilà, exactement.
PEGI aux US. Ouais.
Qui a annoncé donc aujourd'hui qu'ils allaient introduire un label qui informerait les consommateurs du fait qu'il y a des achats en jeu. Proposé dans les jeux, donc ça serait sur la boîte ou quand on achète en ligne dans la fiche descriptive du jeu. Et autant je trouve que bon, ils y vont un petit peu fort dans les lois à Hawaï, comme je le disais, le sénateur Lee est quand même particulièrement, il fait partie des gens qui sont très très remontés, qui vont pas avec le dos de la cuillère. Autant je trouve que ce label, il fait quand même les choses un petit peu à moitié, parce qu'il ne fait aucune distinction entre les différents types d'achats en jeu. Et si il faut, si l'ISRB veut un label, moi je pense que c'est une bonne méthode. Enfin, c'est quelque chose qui aujourd'hui, vu la réponse du public, me paraît approprié. Il faut au moins un label qui va faire la différence, je dirais, entre les objets qu'on peut acheter tout court, genre je veux tel personnage ou tel objet en jeu, telle épée, telle cape, peu importe, ou même telle extension de jeu ou tel DLC. Donc ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre, le cœur du problème et de la discussion, les loot box, c'est-à-dire au moins avoir deux variations du label, avec d'un côté, vous pouvez acheter des trucs directs, et de l'autre, vous pouvez acheter des boîtes surprises ou des loot box où ils trouvent le nom qu'ils veulent, où vous avez une chance d'obtenir l'objet que vous voulez. Vous pouvez les acheter avec la monnaie, de l'argent réel. Ne pas faire ça, ça veut rien dire, parce que du coup, 90% des jeux auront le label dessus et ça va pas vraiment nous informer plus que ça. Donc moi je trouve que c'est un petit peu le minimum syndical de la part de l'ISRB, et c'est carrément, ça, tant qu'à faire ça, autant rien faire, parce que là, ça va pas informer grand monde. Je sais pas si t'as un avis sur les deux éléments, enfin la loi et le label.
Je dois avouer que cette histoire de lootbox, j'ai pas écouté tes dernières émissions, mais je crois qu'on est un petit peu du même avis. Cette histoire de lootbox, je peux plus entendre parler. Je trouve que les discussions sont complètement irraisonnables et beaucoup trop passionnées, dans le sens où les gens, c'est des gamers, tu vois, puis il y a toujours la lutte contre le grand capital, contre les grands éditeurs, contre le machin, et puis le monde du jeu vidéo, il est pourri, et machin, blabla. Je trouve qu'il y a peu de place pour des discussions un petit peu réfléchies là-dedans. Je suis encore tombé il y a pas longtemps sur des tweets de Jim Sterling sur Twitter, qui, je me dis, putain garçon, t'as 35 ans, tu t'exprimes et tu réfléchis comme un espèce d'adolescent rebelle de 16 ans. Enfin bref, c'est sa ligne éditoriale, peu importe.
C'est ça, oui, c'est ce que j'évoquais moi à l'époque au plus fort de la conversation. Moi je disais, des gens comme lui sont des gens qui font leur argent, entre guillemets, et leur image sur cette ligne éditoriale. Donc, s'ils le pensent vraiment, peut-être.
Tout ce qui est le négatif et le populisme un peu démago, ouais, ça rapporte du clic, et puis ça rapporte en général l'affection d'une partie des joueurs qui forcément sont sont très engagés contre les lootbox. Mais je pense que je continue de penser que les lootbox sont pas un vrai problème. Le problème, c'est comment les lootbox dans certains jeux sont designés, parce que on en a beaucoup parlé forcément l'année dernière, parce qu'on a commencé à en voir apparaître un petit peu dans plein de jeux. Et puis surtout, il y a Battlefront 2 le design de ces lootbox était et la façon dont le jeu tournait autour de lootbox était assez scandaleuse. Mais il y a depuis des années, il y a plein de jeux qui en utilisent et on en a pas parlé à l'époque. Tu vois, là en ce moment, je me suis remis un petit peu à jouer à Halo 5, et à Halo 5, à l'époque, il y a en fait un système de lootbox. Tu peux acheter des espèces de petits coffres dans lesquels t'as des objets, mais c'est de la cosmétique pure, ou c'est des objets pour un mode de jeu bonus. Donc honnêtement, tu les as pas, ça revient un petit peu au même, c'est très optionnel. D'autant plus que tu peux aussi les acheter avec la monnaie que tu gagnes en jouant de manière tout à fait normale.
Moi, j'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde. Il y a des gens qui ont clairement abusé, et puis il y a des fois où c'est pas trop mal implémenté.
C'est juste une question de la manière dont c'est implémenté. Et à un moment, si on pouvait juste, je veux dire, à un moment, c'est peut-être juste une question d'éthique aussi du côté des éditeurs et des développeurs. Je comprends tout à fait, toi, les problématiques qui sont les leurs et les besoins financiers qui sont les leurs, parce que il faut le rappeler, on a une époque où développer des jeux vidéo AAA, ça coûte un pognon, mais monstrueux, simplement parce que les joueurs veulent toujours plus, toujours mieux, toujours machin, toujours plus beau, toujours plus de features dans tous les sens. Donc, les développeurs, les éditeurs, ils sont un petit peu obligés de faire.
Ne refaisons pas tout le, on a parlé de tout ça.
Sans vouloir tout refaire le débat, effectivement, je comprends, toi, leurs besoins à eux, mais effectivement, si tu peux, sans avoir besoin, tu vois, parce que je crois que c'est l'ISA, tu vois, l'équivalent du CEL aux États-Unis, donc le syndicat des éditeurs aux États-Unis, ont un petit peu gueulé en mode, dis donc, on va pas commencer à légiférer là-dessus. Les éditeurs et les développeurs peuvent se raisonner d'eux-mêmes. Et ben, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, faites-le, laissez, on légifère pas, mais dans ce cas-là, d'ici 1 à 2 ans, il faut que les développeurs et éditeurs aient démontré qu'ils sont capables de se raisonner et de proposer des systèmes de lootbox qui conviennent autant aux joueurs que à eux, à leurs besoins, en termes de comptabilité pure, quoi. Et je crois que Halo, à l'époque, le 5 a plutôt bien démontré, parce que mine de rien, de mémoire, ils ont financé une partie des Halo World Championship avec l'argent récolté par les lootbox, et ils ont rajouté quelque chose comme 1,5 million, je crois, au cash price. Enfin, tu vois, je veux dire, ça veut dire que les joueurs ont dépensé de l'argent, et à l'époque, personne s'en est plaint. Tu vois, c'est ce genre d'exemple. Bon, j'ai cet exemple-là parce que je rejoue à Halo, mais t'auras plein d'exemples de ce même genre où la lootbox ne pose pas problème. J'ai envie de dire qui s'inspire de ce genre de modèle-là plutôt que nous balancer du Battlefront 2 ou je sais pas quel truc un petit peu salaud on a pu avoir ces derniers temps.
Je pense aussi que c'est la direction dans laquelle j'aimerais qu'ils dirigent et puis voir. Moi, c'est ce que je disais effectivement. Attendons 6 mois, un an et demi, et puis si à partir de là, enfin si à ce moment il y a toujours des trucs aussi scandaleux, bon bah peut-être qu'à ce moment il sera temps de légiférer. Je vois ce que fait l'ISRB. J'ai l'impression que c'est mon argument aussi. Et là, ce label, à la limite, c'était pas la peine d'en faire un, quoi, parce que là, c'est un petit peu, c'est pas se foutre de la gueule du monde, mais bon, c'est juste que ça sert à rien, ce label spécifiquement. Donc, on verra. Ils disent aussi, c'est la première étape d'une série de plusieurs étapes. Peut-être qu'ils vont faire mieux, mais. Mais bon.
Ouais, ils peuvent se raisonner aussi. On est tous les deux joueurs de Destiny, et je sais pas ce que tu penses des microtransactions dans Destiny 2.
Oh, bah, c'est complètement acceptable.
Je m'en fous complètement. Oui. Les joueurs ont gueulé parce que, elles sont un peu plus développées que dans le premier jeu, effectivement. Mais dans l'absolu, on s'en fout complètement. Bungie obligé de répondre en expliquant que, d'ici quelques temps, les objets seront disponibles directement à la vente sans passer forcément par les lootbox, et donc du coup j'imagine que forcément les prix des objets en achat direct comme ça seront un peu plus élevés. Donc voilà, si les gens veulent absolument leur cosmétique sans passer par les lootbox, et du coup ils auront une solution, mais c'est une question de raison, quoi. Tu vois, à un moment il faut aussi que les éditeurs se prennent un peu par la main, et ça tout le monde finira par trouver son bonheur, quoi.
C'est ce que je disais, et puis on va conclure là-dessus parce que on a déjà passé trop de temps sur ce sujet dont on a parlé en long, en large et en travers. Mais moi, je pense que effectivement, il y a un équilibre à trouver. De la même manière que le DLC avait provoqué la fin du monde apocalyptique chez les gamers il y a 5 ans, aujourd'hui, les DLC, c'est quelque chose de parfaitement maîtrisé et qui bénéficie à tout le monde. Le jeu de base est bien, le DLC apporte en plus. Voilà, tout le monde est content. Je pense qu'on peut arriver à un même équilibre.
Ouais, c'est, casse la gueule encore un peu des fois en fonction des exemples, en fonction
Tu sais, il y a des ultras qui sont toujours, qui sont jamais contents, quoi. Donc, et puis il y a des moments où c'est approprié de gueuler. Sur le, les DLC, effectivement, il y a des voix, ils poussent un peu, et c'est bien de gueuler pour les, leur exprimer le fait que, bah justement, ils ont poussé le bouchon. Pareil avec les lootbox. Je crois que le catalyste, Battlefront 2 permettra justement de trouver le bon équilibre avec ces histoires de lootbox et d'avoir des jeux où les lootbox sont utilisés dans les limites du raisonnable pour permettre... Bon, bref, on va pas tout refaire, mais tout ça pour dire que les lois proposées par Huawei, bon, ça pousse un petit peu, ils interdisent pas complètement les lootbox parce que de toute façon, c'est impossible, mais je trouve qu'ils vont quand même au max de ce qui pouvait être envisageable. Et de l'autre côté, les SRB, pour moi, ne va pas assez loin s'ils veulent mettre un label. Bah, faudrait un label tout simplement lootbox, quoi. Voilà. Dans ce jeu, il y a des lootbox. Maintenant, vous savez. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Et entre parenthèses, même moi qui trouve que un label serait peut-être souhaitable, ça n'absout pas non plus les développeurs. C'est pas parce qu'il y a un label que, du coup, un truc comme Battlefront 2 serait... bon, ensuite, chacun fait ce qu'il veut, mais serait plus acceptable au niveau du design moral, on va dire. Donc, voilà, il restera toujours des exemples où on pourra... il sera légitime de se plaindre sans forcément partir dans les exagérations qu'on peut voir à droite ou à gauche sur YouTube, effectivement. Bon, parlons d'un autre truc qui pourrait être sujet à controverse aussi, c'est la sortie de Metal Gear Survive, l'un des premiers, c'est pas le tout premier, mais le premier Metal Gear, on va dire, de l'ère post-Kojima chez Konami, qui a quand même, alors il y a plusieurs trucs dont on pourrait parler, il y a des, quand on parlait de morale dans le jeu, si vous voulez, un personnage en plus, une sauvegarde de personnages en plus, une deuxième un deuxième slot, ben ça vous coûtera $10 dans ce jeu. Bon, en même temps, on n'a pas forcément besoin d'avoir une deuxième sauvegarde, hein. C'est quand même un jeu particulièrement complet avec une sauvegarde. Mais la grosse controverse, c'est justement qu'il n'y a plus Kojima aux commandes et que, en plus de ça, le type de jeu qui est une sorte de tower defense vu à la troisième personne, un petit peu répétitif, pas hyper inventif, et qui en plus narrativement rompt complètement avec l'univers de Metal Gear, enfin pas complètement mais sensiblement, avec les soldats de l'armée de Big Boss, si je ne, enfin de la Mother Base, qui sont envoyés dans une dimension parallèle où il y a des sortes de zombies à cristaux dans la tête, enfin bref. Et qui doivent faire une sorte de survival game. Bon, clairement, il y a tous les éléments réunis pour que le jeu soit décrié par les fans de la série. Ouais. Dans l'ensemble, j'ai l'impression que le consensus est, bah, c'est pas un super jeu, c'est pas un jeu complètement pourri, mais enfin, il sera vite oublié. Voilà,
C'est un jeu très correct, mais c'est sûr que c'était certain que le jeu, de toute manière, allait se faire bâcher et qu'il partait avec un a priori négatif qui était assez assez conséquent. Mais dans les faits, le jeu, bon, ça, effectivement, ça invente rien. Il y a quelques mécanismes ici et là qui sont plutôt bien vus, mais non, c'est un jeu qui est correct, qui est très acceptable. Et c'est vrai que c'est un peu le problème qu'on a depuis quelques temps, et je sais pas si c'est pas Internet, c'est avec Twitter, machin, où il faut avoir un avis sur tout, et un avis bien tranché, machin, etc. Mais aujourd'hui, toi, c'est soit un jeu, c'est une bombe, soit c'est un jeu, enfin, le jeu, c'est de la merde. Il y a jamais vraiment d'entre-deux, de nuances, de machin, et c'est dommage, parce que dans le cas d'un jeu comme Survive, bah, de la nuance, il en faut un petit peu, parce que, ouais, clairement, c'est pas un grand jeu, mais est-ce que c'est une merde pour autant? Bah, non, clairement pas, il navigue un petit peu entre deux eaux, et ouais, on va vite oublier, mais ça mérite clairement pas le bashing qu'on a pu voir depuis son annonce. En fait, c'était quoi, c'était la Gamescom l'année dernière, je crois, je me rappelle plus, enfin non, c'était même il y a 2 ans, je crois,
bref.
Mais non, par contre, ce qui est rigolo, tu vois, je sais pas si t'as vu passer l'histoire là, bon, ça c'est anecdotique, mais les développeurs qui se sont un petit peu vengés et qui ont un petit peu exprimé leur opinion dans les crédits à la fin du jeu et qui en ont profité pour insulter un petit peu le producteur, etc. Ouais, bon.
Oui, bah en fait,
avec le petit la petite marque d'allégeance à Kojima Production aussi, c'est
C'est ça. Rigolo, en fait, quoi. Il y a, je crois que c'est à la création du personnage, il y a une un clipboard avec une liste de noms et des noms à la Metal Gear, hein, avec Black Jackal, Thunder Parrot, machin. Et si on prend la première lettre de certains des deuxièmes parties des noms, ça nous donne KJP Forever, donc Kojima ça, Productions, ouais. Forever. Et en dessous de ça, les deux derniers noms, c'est Bastard Yota et Cunning Yuji, les deux designers du jeu étant ce prénommant Yuji et Yota. Donc c'est vraiment effectivement un truc qui est passé. Alors je sais pas si vous retrouvez ceux qui spécifiquement qui ont choisi ces noms-là, mais oui, c'est enfin ça résume bien l'atmosphère qu'il y a autour de ce jeu. Alors je comprends tout à fait qu'on veuille détester Konami pour la manière dont ils sont comportés. En plus, on en avait parlé, mais il y a des histoires et des qui sont même plus des rumeurs, mais des histoires sur la manière dont ils traitent leurs employés qui est complètement scandaleuse. Ils ont des emails tournants qui ne sont pas à leur nom, dont ils changent tous les quelques mois pour éviter de pouvoir obtenir des contacts réguliers avec l'extérieur. Enfin, c'est après, limite s'ils mettaient un message genre dans le jeu, s'ils cachaient un message dans le jeu genre stuck at Konami, please send help, ça serait pas surprenant. Mais bon, à côté de ça, c'est pas avec ça qu'il faudrait juger le jeu. Et effectivement, c'est un petit peu facile de tomber dessus, quoi.
Ouais, puis même, tu vois, sur l'affaire Konami à l'époque, ouais, bah effectivement, ça a pas l'air d'être la boîte où il fait le mieux vivre. Mais après, sur une partie des consignes, des limites et des machins dont se plaignaient certaines personnes à l'époque, bah, j'ai envie de dire, tu retrouves ça, en fait, dans plus ou moins toutes les grosses boîtes, et notamment les boîtes qui ont, bah, tu sais, des projets de création un peu énormes comme ça, que ce soit, bah, notamment, je sais pas, tu vois, chez Nintendo, bah, Nintendo, c'est pas Disneyland non plus, tu vois, ils ont aussi des contraintes et des machins, et voilà. Ouais, il y a eu beaucoup de bashing à l'époque, et Konami a mérité, parce que la façon dont ils ont géré ça, c'était absolument dégueulasse. Mais, pour avoir fouillé un petit peu sur l'affaire à l'époque, il y a, bon, on peut lire, monsieur Kojima, avec tout le respect que j'ai pour lui, il est pas non plus blanc comme neige, tu vois, dans l'histoire, il a quand même, un passif de mec qui, c'est, je veux dire, le mec, c'est un producteur, il a des responsabilités, tu vois, sur la manière dont les finances sont gérées, comment l'argent est injecté, etc. Et le monsieur est quand même connu pour balancer quand même un paquet de pognon par les fenêtres à chaque fois qu'il s'attaque à un jeu. Enfin, tu vois, c'est...
Mais c'est sûr que...
Il faut comprendre un petit peu les deux parties à chaque fois dans ce genre d'histoire. Et là encore, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, sur les grands gamers, enfin les gamers, tu vois, toujours ces éternels rebelles contre le système.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Même les grands éditeurs en enfer, machin, etc. Enfin, et là encore, ça, on en a fait une histoire du petit créateur de génie, machin, contre la grosse méga entreprise, blabla. Enfin, c'est un peu manichéen, mais bon, c'était attendu, quoi. J'imagine qu'on retrouvera la même chose le jour où, je sais pas, moi, Nintendo vire Miyamoto. Enfin, j'y crois absolument pas.
Ça, j'y crois pas.
Ça sera le même délire, quoi.
Je crois que dans l'histoire de Konami, il y a quand même, effectivement, c'est comme toujours. Présenté de manière un petit peu trop manichéenne et je suis certain que Kojima a des choses à se reprocher aussi et ça c'est le côté qu'on veut souvent pas voir dans le cas de tous les créateurs même au ciné on a tendance à dire ah regarde ces gentils réalisateurs dont la vision artistique est étouffée par le studio qui a investi c'est accessoirement ça, ouais. 120 millions de dollars dans un film tu vois et il y a différents types de projets quand un jeu comme Céleste Céleste, bah Céleste, le type, il est tout seul à la tête de son studio, ils sont 10 à faire le jeu, bah il fait ce qu'il veut. Après c'est autre chose quand t'as une boîte énorme qui va investir des dizaines ou des centaines de millions de dollars. Maintenant, je crois que dans le cas de Konami, on a clairement un exemple où il pousse un petit peu le bouchon. Tu vois, il y a eu de la mesquinerie,
ouais,
et
ouais,
puis il y a eu plus d'une.
Ouais.
Donc sans être complètement tout blanc, tout noir.
En plus de ça, Konami, toi, déjà de base, auprès d'une partie des joueurs, ils ont une sale image parce que les mecs, ils font du jeu vidéo, mais ils ont aussi des salles de sport, mais ils ont aussi des casinos. Enfin, ce qui est assez typique, en fait, d'une bonne partie des boîtes japonaises qui sont très touche à tout. Mais forcément, pour les joueurs, c'est, ah ouais, de toute façon, le jeu vidéo, ça les intéresse pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est du pognon. C'est pour ça qu'ils font plein de trucs à côté.
Je suis d'accord.
Enfin, tu vois,
mais
il y a un jugement sur la boîte qui est.
Je suis d'accord, mais sur le jeu, là, si on revient à l'exemple du jeu, il y a quand même une trahison dans le type de jeu, dans le design, dans le... Et puis, tu sais, ils avaient fait des trucs mesquins comme le fait de supprimer le nom de Kojima de la boîte du jeu Metal Gear.
Ouais,
tu vois, tout ce genre de trucs. Et puis, Metal Gear Survive, enfin, j'ai du mal à imaginer un truc plus cynique dans la... Enfin, c'est un jeu qui n'a aucun rapport. C'est à la limite, tu fais un jeu à loot box sur mobile, tu colles Metal Gear dessus et c'est des collections de pets virtuels qui s'appellent justement Sly Fox et Dieu sait quoi, mais...
Ah ouais, mais après tu vois Konami, c'est aussi les mecs qui font des pachinko avec Silent Hill, tu
bien
vois.
Sûr,
enfin, tu dis mais what, les gars, vous respectez rien quoi. Mais ouais, mais les mecs, tu vois, ils ont des licences fortes qui ont une vraie image et un vrai pouvoir en termes de marketing, tu vois, auprès du grand public, notamment au Japon. Et ils y vont à fond. Ce qui est particulier avec ce Metal Gear Survive, c'est que effectivement, au-delà du fait que ça soit complètement en dehors de ce qu'on connaît habituellement de la série, les mecs ils trouvent une espèce de jeu zombie, tu vois, le genre de jeu qui est rincé depuis des années parce qu'à une époque sur Steam on se bouffait que ça en boucle. Oui. Et les mecs font ça à Metal Gear. Puis il y a un moment, il y a double crime, tu vois. C'est
ça, oui, exactement.
Dénaturer la série. En plus, c'est pour la coquiner avec un espèce de genre dont on peut. Enfin, honnêtement, moi les jeux de survie, je peux plus blairer ça. Là c'est vrai qu'ils ont poussé le bouchon un petit peu loin. Ouais, mais bon, c'est
ouais, voilà.
Mais, tu parlais de la mesquinerie sur le fait que c'est le nom de Kojima, toi, est disparu, machin. Mais ça, là encore, tu vois, c'est assez classique lorsqu'il y a des tensions, tu vois, entre une boîte et un employé. Enfin, là, on parlait de Destiny tout à l'heure. Typiquement, lorsque O'Donnell s'est fait virer, aujourd'hui, tu regardes les nouvelles éditions des OST de Destiny. Avant, le nom de Martin O'Donnell était bien en évidence, tu vois, c'était le premier. Maintenant, c'est le tout dernier sur la liste. Il est après Michael Salvatori, il est après Paul McCartney et compagnie. Tu vois, ils se retrouvent tout à la fin, alors que le mec, c'est les compositeurs principaux. Enfin, toi, c'est toujours un peu le même délire, forcément, lorsque t'as des disputes comme ça, ouais, t'as pas forcément envie de mettre en avant les gens, ouais, c'est mesquin et c'est un peu ridicule, ouais. Mais ouais,
et peut-être que la vision de la chose est aussi, même si effectivement c'est mesquin, c'est un petit peu exagéré aussi parce que c'est Kojima et que bon, je pense qu'on a peu de personnalités dans le monde du jeu vidéo qui soient aussi emblématiques que Kojima, donc forcément, ah mon dieu, tu as fait du mal à Kojima,
ouais. Bon. Ah bah oui, c'est ça, ouais. Bah, tout le monde l'aime, Kojima, il est sympa, il monte des photos de bouffe sur internet, le mec
c'est
est
ça,
rigolo.
Ouais, sur Twitter, ouais. Moi qui n'ai pas spécialement d'amour infini pour la série Metal Gear, je sais que ça, le cœur de certains des auditeurs s'arrête à chaque fois que je dis ça, mais moi je le trouve quand même sympathique aujourd'hui. Mais...
Ah ouais, Kojima, c'est un mec que j'adore, j'aime beaucoup sa vision du jeu vidéo, je suis pas forcément fan de ses jeux, mais j'aime beaucoup le personnage, et puis il y a un respect énorme pour le créateur derrière. Le mec, il a fait des jeux qui sont quand même...
Bon, parlons de choses un petit peu plus enthousiasmantes, notamment avec Assassin's Creed Origins. Discovery Tour, et le Discovery Tour, on en avait déjà parlé il y a quelques temps, ils avaient annoncé ça chez Ubisoft. C'est en fait un mode intégré à Assassin's Creed Origins qui permet l'exploration simplement de la carte et donc de l'Égypte, que ça soit géographiquement, mais aussi au niveau histoire, au niveau contexte culturel, sociétal, etc. Ils avaient annoncé ce mode et on savait pas très bien comment ça allait être implémenté. Moi, je craignais un peu la série de textes un peu insipides, mais indigestes plutôt. Et en l'occurrence, l'implémentation est quand même pas mal foutue. On est donc lâché sur la carte immense d'Assassin's Creed Origins et on a des séries de tours, de parcours qu'on va aller sélectionner. Donc on a un petit élément visuel dans le monde dont on va s'approcher et puis on peut lancer le tour. Et une fois qu'il est lancé, eh ben on a un chemin qui est dessiné sur une sorte de GPS sur la carte, enfin pas sur la carte, même dans le monde, en surimpression virtuelle. Et puis on a différents points à chaque point de ce parcours. Et à chaque fois qu'on s'arrête à l'une de ces étapes, en fait, on a une explication audio, donc qui est lu, qui est en narration, qui est aussi doublé du texte et qui est agrémenté donc d'une vision sur l'endroit dont on parle. C'est plus cohérent bien sûr quand on parle d'un monument ou d'un truc comme ça que quand on parle d'éléments de la vie quotidienne de l'Égypte de l'époque. Mais donc on peut regarder dans le monde du jeu, et on a aussi généralement une image ou une numérisation d'un élément historique qui accompagne ces explications qu'on peut regarder un petit peu plus près. Au final, c'est franchement très bien foutu. C'est une mise à jour gratuite pour les gens qui ont déjà le jeu et il est disponible pour $20, 20 euros sur PC seulement. On peut pas l'acheter en indépendant du jeu sur console. C'est uniquement sur PC qu'on peut acheter ce mode-là spécifiquement. Mais au final, moi, je le trouve franchement assez bien foutu. Il y a les explications diverses. Par exemple, à un moment, il montre une salle de classe. Il y a une sorte d'amphithéâtre où un professeur est en train d'enseigner aux enfants romains, et ils expliquent que le choix des designers du jeu était d'avoir des enfants, des petites filles et des petits garçons, alors que historiquement ça n'aurait été que des petits garçons, mais ils ont sacrifié entre guillemets la véracité historique à l'inclusivité du contexte actuel du jeu vidéo, machin. Ils se sont dit ça serait sympa d'avoir plutôt, comme c'est pas un jeu historiquement 100% exact, et ils expliquent ça dans le truc, donc ils ont un certain respect quand même de tout ça. Et à côté de ça, il y a des explications qui sont bien sûr beaucoup plus vastes que ce point spécifique, et il y a, je sais pas, peut-être 50-60 tours différents, 60 parcours différents qu'on peut faire. C'est franchement très bien foutu. Je suis assez agréablement surpris. Je trouve ça pas mal. Toi, en tant que fan d'histoire, justement, est-ce que c'est un truc qui te parle aussi, ou qu'est-ce que t'en penses?
Ah ouais, carrément. Bah, dès qu'ils l'ont annoncé, je dois avouer que j'ai suivi ça très près. Après, j'ai essayé de chercher à m'enseigner le plus possible, mais j'ai pas été complètement surpris, parce que les jeux Assassin's Creed depuis le tout premier, en fait, sont développés, tu sais, à chaque fois, ils utilisent beaucoup de consultants, des professeurs en histoire, des experts dans différents sujets, etc. Et il y a toujours eu ce petit côté un petit peu didactique, j'ai envie de dire, dans les jeux, donc ça me paraissait être une évolution assez logique et assez intelligente pour la série. Donc ouais, non, je trouve le truc bien fichu, bien plutôt intéressant. Puis en plus, je veux dire, le jeu est sublime, donc se balader à l'intérieur, même comme ça pris par la main, honnêtement, c'est assez génial. Après, tu vois, sur ce que tu disais, typiquement, là, sur le coup du vase, et les personnages, ouais, qui ont été remplacés, parce que aujourd'hui, le contexte actuel, machin. Ça, c'est un truc, par contre, sur lequel j'ai beaucoup plus de mal, forcément. Mais après, ça, c'est un sujet de société qui revient un petit peu régulièrement en ce moment, c'est parce que pareil, on a aux États-Unis, tu vois, des gens qui veulent enlever des statues, on a un petit peu le même genre de sujet chez nous. Et c'est un truc qui me met mal à l'aise.
C'est anecdotique, hein. Tu sais, c'est vraiment anecdotique, ouais. C'est pas un truc.
C'est anecdotique pour le moment, mais j'ai peur que, tu vois, que ça soit le début de quelque chose et le. Ouais, je sais pas, sans parler de révisionnisme, parce que j'ai pas envie d'aller jusque là. Le fait de gommer, tu vois, les erreurs et les. Qui aujourd'hui nous paraît plus correct du passé, pour les remplacer par des choses qu'on trouve plus justes, ça me dérange. C'est. L'histoire, c'est l'étude de ce qui a été, et c'est pas l'étude de ce qui a été, mais aussi on va modifier des petits trucs parce que voilà, ça correspond mieux à ce qu'on apprécie aujourd'hui. Je sais pas, c'est un truc qui me met vraiment vraiment mal à l'aise. J'ai l'impression qu'on a une espèce de gêne par rapport à notre à notre passé, je vais en dire, plutôt que tu vois que de le gommer et d'essayer de faire croire des choses qui sont fausses, je suis plutôt partisan de, tu vois, avant, on faisait comme ça, c'était vraiment pas bien, aujourd'hui, on va plutôt faire comme ça. Et donc, du coup, mettre en évidence, la façon dont fonctionnaient les sociétés autrefois. Donc, je sais pas, moi, c'est un truc qui met un petit peu mal à l'aise et pour le coup, j'aurais préféré qu'il s'en passe. À la limite, tu vois, qu'ils mettent des coquillages sur les sexes et les seins des statues. Je trouve ça rigolo, je trouve ça mignonné, mais bon.
Oui, parce que ça a été critiqué aussi, oui.
Oui, ça a été critiqué. Bon, à la limite, ça m'a fait rigoler. C'est pas gênant. Ça m'embête plus. Et il faudrait pas que, tu vois, ça se généralise et que ça devienne de plus en plus régulier, quoi. En tant que c'est ça qui est terrible, hein, mais quand tu aimes l'histoire, des fois, tu trouves des trucs qui sont dérangeants, qui sont pas plaisants. Mais c'est pas parce que ça te plaît pas que subitement tu dois faire comme si ça avait pas existé, quoi. La technique de l'autruche, c'est pas trop bon.
Je suis d'accord. Bon, je trouve que, faut pas non plus exagérer la portée d'Assassin's Creed Origins, tu vois. C'est là qu'on atteint les limites.
C'est des petites touches que j'observe par-ci, par-là, depuis quelques mois maintenant. Et ça, l'historien qui est en moi, tique un petit peu.
Ouais. Bah, tu sais, je dirais que il faut pareil. Il faut pas non plus, partir dans des conclusions un petit peu plus vaste que le contexte spécifique d'un jeu comme Assassin's Creed Origins. Je crois que là, on atteint les limites effectivement de la portée historique d'un truc comme ce jeu-là, qui n'est pas non plus un cours d'histoire, qui est juste une introduction et peut-être un moyen d'éveiller un intérêt chez certains, ou simplement de distraire en enseignant un petit peu certains éléments. Tu vois, c'est pas non plus, ils ne prétendent pas avoir une véracité historique absolue dans le contexte du jeu ou même du tour. C'est juste un petit truc, tu vois, chaque tour fait 20 minutes, tu vas pas comprendre l'histoire de l'Égypte ou même sur le sujet spécifique la vie de Cléopâtre en suivant 20 minutes de parcours dans Assassin's Creed Origins. Ils ont d'ailleurs changé.
Il me semblait qu'ils le vendaient un petit peu comme une espèce de cours d'histoire interactif et forcément sympa parce que t'es dans un jeu vidéo et que c'est Assassin's Creed, etc. Donc c'est vrai qu'à partir de là, c'est vrai que ce genre de choses, je m'y attendais absolument pas, quoi.
Bah, c'est un petit peu ça. Et dans le contexte.
Je me mets à la place d'un prof d'histoire qui veut utiliser Assassin's Creed, là, le Discovery Tour, comme une espèce de support pédagogique pour ses cours, et je suis à peu près certain qu'il y en a qui l'envisagent très fortement. Ce genre de truc, tu vois, c'est embêtant.
Non, mais attends, calmons-nous. Dans le Discovery Tour, ils expliquent justement l'intention dans le jeu, qui est un jeu, en disant les designers ont décidé de faire ça, mais historiquement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ils sont justement précis sur ce point. N'oublions pas non plus que dans le jeu, par exemple, Cléopâtre est présentée comme une sorte de vamp, qui couche avec tous les gens qui passent. Alors que bon, très clairement, historiquement, c'était une reine qui avait beaucoup plus de force, de caractère et de sagesse politique que ça. Donc, il faut bien faire la distinction entre le jeu et ce qui est présenté dans la partie un petit peu historique light du Discovery Tour, où justement, ils rectifient et ils expliquent les choix artistiques, si on veut être un petit peu nazi le sujet. Ils ont fait un jeu, tu vois, un jeu où dans lequel ils ont mis leurs intentions artistiques. Le jeu en lui-même n'est pas une représentation exacte du monde, de la réalité historique. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a quand même des éléments métaphysiques et un petit peu magiques dans le jeu. Donc, clairement, le jeu n'est pas une représentation claire, historiquement.
Très clairement, mais c'est vrai que pour moi, le Discovery Tour, ça aurait permis, tu vois, d'atteindre un petit degré de plus, en termes de...
Non, mais c'est ça qu'il faut, c'est ça que je veux dire. Le Discovery Tour essaye justement d'expliquer ce qui est la réalité historique et de quelle manière le jeu en dévie. Donc c'est exactement ça. Il dit, alors il y a d'un côté l'intention artistique des développeurs et de l'autre côté voilà comment plus ou moins c'était historiquement. Donc c'est exactement ce qu'il faudrait, tu vois. Non, tu te trouves pas?
Oui.
Oui, je te convainc un petit peu.
si tu me convainc, c'est juste que c'est moi qui suis très chatouilleux à chaque fois ça parle d'histoire. t'as probablement raison. Ouais.
Je crois que t'as raison en fait, ça montre simplement, comme je le disais, les limites du du projet, quoi. C'est que c'est très intéressant, ça peut éveiller certains intérêts, mais c'est pas ni un livre d'histoire, ni un cours d'histoire. Et je crois qu'il faut bien mettre la différence entre les deux. Il faut pas prétendre que c'est un cours d'histoire. Et les professeurs qui utiliseraient le mode ou même le jeu comme support pédagogique, ils le feraient de la même manière qu'on pourrait le faire avec un film, tu vois. Un film, c'est pas non plus un cours d'histoire, ça peut éveiller certains intérêts, ça peut t'intéresser. C'est un exemple qui n'est pas exact, qui est pas tout à fait équivalent, mais moi, mon amour pour le Japon est né des mangas, des dessins animés, des jeux vidéo. J'ai découvert énormément de choses sur le Japon à travers ces expériences, mais on est évidemment bien plus loin encore du véritable Japon que ne l'est Assassin's Creed Origins de la véritable Égypte. Et pourtant, ça a éveillé mon intérêt, et je suis ensuite allé chercher la langue japonaise, étudier à l'université, vivre là-bas. Et c'est plus dans ce contexte que je le comprends, tu vois, et le jeu et le Discovery Tour. Et je pense qu'il serait justement dommage de personne ne parle de s'en priver, mais d'exiger une rigueur historique absolue sur ce genre d'expérience, parce que justement c'est une vulgarisation de ce type de sujet qui peut éveiller des intérêts, justement parce que c'est plus accessible et plus sympa. Et ensuite, les gens qui vont se découvrir un intérêt vont pouvoir aller chercher plus loin et étudier la chose de manière beaucoup plus sérieuse. Mais voilà, donc c'est mon analyse sur la chose, quoi.
Non, mais je suis assez d'accord avec toi, en fait.
D'accord. Bon, bah, très bien. Écoute, comme quoi, tu vois, quand on essaye de discuter, on peut tomber d'accord. Et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que il est important de comprendre que ce type de représentation n'est pas une représentation historique et que que ça peut être discuté. Tu vois, le fait d'inclure ce sujet, d'inclure des petites filles dans entre guillemets, la salle de classe, alors qu'il n'y en avait pas historiquement. Oui, on peut en discuter. On peut se dire peut-être que c'est pas forcément une bonne chose. Et ça veut pas forcément dire monter sur ses grands chevaux, ni d'un côté ni de l'autre, et dire « Ah, aujourd'hui, on est trop, on essaye de tout corriger, et c'est pas historiquement juste, machin, et donc faudrait tout faire exactement comme c'était », ni de l'autre côté se dire « Ah, mais tu comprends pas, c'est parce que il faut réussir à faire comprendre aux gens que c'est bien d'avoir ceci ou cela, et dans le cadre du contexte sociétal d'aujourd'hui, il faut tout changer, machin ». Je crois que c'est juste une question qu'il est intéressant de poser et qu'il est légitime de poser. Donc bref, voilà. On s'écarte un petit peu du sujet du jeu vidéo, mais c'est aussi ce genre de question que ça pose, quoi.
Non, c'est très intéressant. Non, mais on verra bien, tu vois, si ils relancent un Discovery Tour pour le prochain Assassin's Creed. Moi, dans l'état actuel des choses, en fait, j'aimerais qu'ils en fassent pour les précédents jeux. Et notamment, tu vois, je sais pas, un Assassin's Creed Brotherhood, qui est un de mes préférés parce que j'ai trouvé leur reconstitution de Rome, je l'ai trouvé assez fabuleuse. J'aimerais qu'ils nous fassent ça aussi pour Assassin's Creed 3, parce que l'histoire des colonies américaines est absolument passionnante. Enfin, j'aimerais vraiment, toi, qu'ils se développent et qu'ils aient pas peur de revenir sur leurs anciens jeux. Alors, j'y crois absolument pas, parce que j'imagine qu'en termes de de marketing et d'intérêt purement financier, ça serait un petit peu limité, mais c'est un truc que j'aimerais voir.
Ouais, bah, je pense effectivement que ça serait un investissement, parce qu'ils ont vraiment fait du travail hein, sur le truc. C'est pas juste un truc a été rajouté à la va-vite au truc. C'est un vrai projet supplémentaire. Je pense effectivement que ça serait un petit peu compliqué à implémenter dans les jeux précédents, mais je pense aussi que si celui-là marche pas trop mal, et j'espère, il sera implémenté dans les jeux à venir. Ça, c'est très possible. Ouais. Bon, parlons un petit peu de Nintendo. Bayonetta est sorti sur Nintendo Switch, Bayonetta 1 et 2. Sans doute le jeu le plus apprécié, le plus acclamé de Platinum Games. Moi, j'ai acheté les deux. Je me suis dit, bah, du coup, je vais les tester, je vais voir ce que ça donne. J'y avais très très peu joué à l'époque.
Ah, tu avais jamais joué, ouais. Ah si, ouais, quand même un peu.
Un tout petit peu, mais très très peu. Et du coup, bon, c'est un petit peu des jeux qu'il fait bon avoir dans sa bibliothèque. Donc, je me suis lancé. J'ai joué un petit peu aux deux. J'ai pas eu énormément de temps pour m'y plonger. Mais bon, intéressant, un jeu vraiment vraiment intéressant, très certainement. Je sais pas s'il y a quoi que ce soit.
Moyennement convaincu.
Bon, j'ai pas assez joué pour avoir un avis définitif. J'ai l'impression que je suis pas hyper fan de ce type de jeu, les Devil May Cry, les machins, mais parce que j'ai pas réussi à maîtriser mécaniquement les systèmes. Donc il faut que j'y joue plus, quoi. Sinon, ah oui, il y a une vidéo. Pardon.
Non, je disais, après, tu verras, c'est assez fabuleux, ouais.
Oui, bon, je crois que c'est l'avis, là, effectivement, le consensus de la plupart des fans, comme je disais, la meilleure implémentation de ce type de système de jeu à combo et à, enfin, qui combine coups de mêlée, coups enfin, tir, etc. Nintendo Labo, il y a une vidéo qui détaille le fonctionnement des différents kits et j'avoue que j'ai été assez surpris, agréablement surpris par l'inventivité de Nintendo sur le coup. Ils ont toujours été hyper inventifs sur ce genre de trucs, mais il y a des moyens d'utiliser tous les capteurs, je sais pas si t'as vu, mais et il y a par exemple la, je sais plus comment elle s'appelle, la maison, le labo maison, où on peut ajouter des petits des clés de tous les côtés et ça change l'environnement. Il y a la petite créature qui vit dans la maison qui est influencée par les trucs. Ça c'est que l'un des exemples, mais regardez cette vidéo, l'inventivité de toutes ces trucs, c'est pas juste des morceaux de carton qu'on va ajouter à la console. Il y a vraiment une recherche dans le fonctionnement de tous ces trucs qui est impressionnante, quoi. Vraiment impressionnante. Moi, j'ai été... Ensuite, je sais pas si ça sera super sympa à jouer, ça faudra voir quand on le testera, mais la recherche qu'ils ont mis dans tous ces trucs est vraiment... c'est... Pardon, le seul terme que je trouve, c'est impressionnant, quoi. Donc,
ouais, puis c'est assez unique. Il y a vraiment que Nintendo qui pouvait sortir un truc pareil et être crédible, j'ai envie de dire, sur un. Parce que je continue de penser que bon, ça reste quand même du carton. T'as beau me dire que le carton il est solide et qu'il y a plus que ça, et je suis complètement d'accord, hein, c'est vrai. Mais je me dis putain, c'est du carton quand même. Donc du coup, je sais pas, j'attends de voir arriver les premiers kits à la rédaction, mais non, c'est vrai que c'est. C'est vraiment du Nintendo, quoi. Les mecs, tu vois, ils sont jamais là où tu les attends. C'est ça que je kiffe, je kiffe avec eux. Et ce Nintendo Lab, moi, ça m'intéresse pas. De toute manière, c'est normal parce que ça ne m'est pas destiné. Mais je suis très curieux de voir un petit peu à quoi ça ressemble de plus près. Et surtout, je suis très curieux de voir comment le public qui est ciblé, donc plutôt quand même des jeunes, hein, vont réagir. Même si je suis à peu près certain que la plupart des Nintendo fans qui ont aujourd'hui largement plus de 20 ans vont réagir sur ce genre de truc aussi. Je suis très curieux. Non, c'est intéressant comme produit. C'est vraiment unique. Donc forcément, nous, on manque un petit peu de repères et d'outils de réflexion pour analyser le bousin là. Mais ouais, non, en parlant, je souris. Je peux pas m'empêcher de sourire parce que je trouve ça à la fois fou, drôle. Il y a un peu neuneux, mais en même temps, tu vois, c'est tellement Nintendo, quoi. Donc du coup, ouais, je sais pas, on verra.
Moi, j'ai l'impression que de ce que je vois de cette vidéo de présentation, j'ai l'impression que c'est exactement ça. Ça va faire sourire un petit peu tout le monde, même si t'es pas forcément intéressé par le produit. Et je pense que là, il y a énormément de gens qui seront pas intéressés par le produit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, étant donné l'inventivité de ce truc, qui vont être surpris. Qui vont être surpris par ses qualités, en fait. C'est pas juste, on a mis du carton et puis on met le truc dedans et puis voilà, vous jouez avec. Il y a plein de, chaque élément.
Ah, mais il y a plus que ça. Je sais pas si t'as vu comment le piano fonctionne, par exemple. Enfin, tu vois, c'est.
Ça, ouais, c'est ouais, non, fou, mais complètement, hein, c'est ça, en fait.
Il y a de la recherche.
Ouais, donc bon, bref, c'est le labo, je sais plus quand il sort, mais je crois que c'est en mars ou avril, mais ça va pas trop tarder. Yakuza 6 est disponible en version démo sur PlayStation, sauf que non, il a été retiré parce que Sega a fait, ou on sait pas si c'est Sega ou Sony qui a fait une petite boulette qui rendait le jeu entièrement accessible. Donc moi, je me suis précipité sur le truc, je voulais tester enfin ce jeu qu'énormément de gens adorent, et malheureusement ils ont retiré la démo parce que c'était le jeu complet. Donc j'espère qu'elle reviendra bientôt, la version démo, pour que je puisse voir un petit peu ce que ça donne. Il y a Burnout Paradise qui a été annoncé en remaster sur toutes les consoles en mars, donc très bientôt. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est ton genre de jeu, Burnout Paradise, peut-être.
Ah, mais clairement, mais moi tu sais, je suis un gros fan de jeux de bagnole. Et c'est vrai que Burnout Paradise, c'est un jeu de course arcade préféré de tous les temps. Après, je préfère Burnout 2. Mais honnêtement, le fait que Paradise revienne, ça forcément, ça fait plaisir parce que c'est des jeux que j'ai fait, je pense que j'étais déjà à la fac, tu vois, c'est les débuts d'étudiants, tu vois, où t'as un petit peu de temps devant toi et tu sais pas qu'à la fac il faut bosser sur ton temps libre, etc. Donc du coup, ouais, c'est à pas mal de bons souvenirs de soirées entre potes. Non, c'est ce genre de jeu que t'es, il y a plein de gens qui espéraient le voir revenir. Je sais que notamment lorsque Xbox avait commencé, tu sais, avec tout son programme de rétrocompatibilité, il était extrêmement demandé par les fans. Donc là, le fait qu'il revienne en plus de ça sous la forme d'un remaster, non, je trouve ça très bien. Et effectivement, moi, il est déjà noté à mon planning à la rédac. Bien entendu, je vais le tester. Ouais.
On a vu quelques images. Il a l'air particulièrement amélioré. Ou c'est bon, c'est. Est-ce qu'il y a des choses à noter sur ce remaster
Oui, c'est plus joli parce que le jeu, je crois qu'il est sorti, il était dans une espèce de 720p un peu chelou. Ouais, mais bon, tu sens que c'est le même moteur et que ouais, en termes d'évolution, ils étaient quand même un petit peu limités. Et ce qui est, ouais, on verra parce que je suis toujours un petit peu surpris comme ça sur les remasters. Et même sans parler, tu vois, forcément du travail de remaster pur. Là, je parlais du travail de rétrocompatibilité, enfin du truc de rétrocompatibilité de Xbox. Il y a hier ou avant-hier, je sais plus, ils ont annoncé qu'une série de jeux Xbox 360 allait recevoir des augmentations, tu vois, des améliorations pour la Xbox One X. Dans le tas, t'as notamment le premier Forza Horizon qui à l'époque sur 360 était très joli, mais là il reçoit un boost pour être en 4K et compagnie sur la One X. Et honnêtement, tu vois le jeu, mais j'ai du mal à croire que ça soit le jeu de course de 2012. Quoi. Le truc, il est vraiment vraiment super beau. Mmh. Et je me dis, il y a moyen qu'avec Paradise, on ait un peu ce genre de truc. Donc du coup, ouais, écoute, on verra.
À voir,
mais le jeu déjà à l'époque était quand même assez joli. Donc du coup, je me rappelle plus que c'était le moteur qu'ils utilisaient à l'époque, mais avec un peu de chance, le truc permet quand même de des retouches assez faciles et assez profondes. Donc bah écoute, on verra sa sortie, quoi. Je crois que c'est quoi, c'est le 26 mars,
quelque chose comme ça. Ouais, ça arrive dans un mois. Ouais. Mmh. C'est ça.
Non, on sera vite fixé.
Ouais. Ah, même pas, non, attends, c'est le 16 mars. Donc
le 16 mars, ah oui, ça va être encore plus vite.
Ouais, ouais. Très bien. Bon, il sera sur PlayStation 4 aussi, hein, mais sur Xbox One effectivement il risque d'être très beau, sur Xbox One X, je veux dire. Deux dernières petites news. Blizzard serait visiblement sur le point d'annoncer un remaster de Warcraft 3. Ils ont organisé un tournoi invitational dans quelques jours, très bientôt là. Ouais, le deuxième jour, c'est aujourd'hui. Donc, il est très possible que quand vous entendez cette émission, Warcraft 3 Remaster soit déjà annoncé. Si c'est bien pour ça qu'ils ont lancé ce tournoi, ça serait cohérent qu'à la fin du tournoi, ils sortent et ils disent « Voilà, maintenant, on a le jeu qui est désormais disponible. » Moi, j'aurais même pensé qu'ils le feraient au début du tournoi, tu vois, qu'ils annoncent le truc avec « Et vous allez jouer sur la version Remaster !» Mais en fait, visiblement non, sinon on en aurait entendu parler hier. Bon, et si ça se trouve, ça va rien donner du tout, c'est juste qu'ils ont fait un tournoi sur Warcraft 3, et c'est juste ça, ce qui serait quand même un petit peu bizarre. Dernière news, il y a le film Sonic the Hedgehog, dont j'avais pas entendu parler, mais qui avait déjà été annoncé, qui sortira en novembre 2019. Là où c'est intéressant, enfin, ou inquiétant, c'est que le film sera un mélange entre personnages 3D et juste film normal. Donc bon, on sait qu'il y a un film Mario qui devrait arriver dans les années à venir, dans les années à venir.
Et peut-être, le film Sonic. Peut-être.
Oui, peut-être. Bon, ça a pas été confirmé. Si, je crois que ça a été confirmé. Ben,
en fait, ils ont confirmé qu'il y aurait un film. De l'autre côté, ils ont affirmé que là, ils cherchaient un scénariste et que s'ils avaient pas de pitch convenable, finalement, le film, ils le feraient pas.
Ah, d'accord. Donc ils explorent le truc.
Nintendo, ouais. Hein. Ouais, c'est ça.
Ouais.
On verra
bon.
Bien.
Le film Sonic, par contre, il a déjà une date. Moi, je vous avoue que je suis quand même très, très inquiet parce qu'un film avec... est-ce que Sonic va être en 3D dans le monde normal? Enfin, ça sent quand même pas très, très bon à la base. Mais bon,
allez,
qui sait,
t'avais pas aimé Space Jam à l'époque, franchement?
Yeah. Ouais, peut-être. Enfin voilà, donc c'est la dernière news qu'on voulait évoquer. Il y en a quelques autres, mais on va laisser ça pour le prochain épisode. Quand même un petit épisode un petit peu rempli finalement, avec des discussions animées. Ce sont toujours les meilleurs quand on a des argumentations raisonnables, n'est-ce pas? Donc merci beaucoup à toi d'avoir été avec nous. Si les auditeurs veulent te retrouver quelque part, où peuvent-ils aller sur Internet? Parlons de l'Internet, hein, pas du.
Ne donne pas ton adresse, c'est
dangereux.
Ouais, mais Webedia, je pense que c'est facile à trouver.
C'est vrai.
Mais j'écris effectivement pour jeuxvideo.com, où vous pouvez me retrouver régulièrement sous le pseudo de Epion. Et sinon, sur Twitter, à Epionzilla, donc Epion, à la fin Z-I-2-L-A. Comme Godzilla, en fait, mais avec Epion dedans.
Magnifique. Magnifique. Merci beaucoup, Loïc. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr, le site qui héberge toutes mes productions. Et puis, c'est à peu près tout. N'oubliez pas que vous avez aussi le rendez-vous tech disponible sur French Spin. Et le rendez-vous jeu reviendra. On a enregistré un tout petit peu en retard, donc on reviendra dans un petit peu moins de 2 semaines, une dizaine de jours, pour un nouvel épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On vous fait de grosses bises et on vous dit à très bientôt. Ciao à tous.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.